Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. La Journée mondiale de l'Afrique a été célébrée en grande pompe ce 25 mai au Maroc cette année. Il était question de concrétiser la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF. Dans Coémergence, nous verrons comment les entrepreneurs subsahariens installés au Maroc contribuent au renforcement des échanges entre les pays du continent. Vous entendrez à ce propos notre invitée, il s'agit de Ndeye Aïda Diouf. Elle est la directrice générale des sociétés Dala Machine et comptoir africain de la Machine. L'avancée du désert est une réalité dans certains pays du continent. Pour y faire face, des solutions innovantes commencent à émerger. Dans le Zoom Express, nous donnerons la parole à une start-up active dans ce domaine. Notre destination éco nous mène au Nigeria. Ce géant démographique et économique est également l'un des tout premiers exportateurs africains de pétrole. Le Nigeria vient enfin de se doter d'une raffinerie. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, nous parlera de cette raffinerie qui porte la signature de l'homme d'affaires, Aliko Dangote. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant de développer ces titres, retour sur cette convention de partenariat signée entre la Royal Air Maroc et la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire. En vertu de cette convention, les membres de cette Chambre de commerce pourront bénéficier de facilités et de réductions lors de leur voyage depuis la Côte d'Ivoire. De quoi faciliter les déplacements pour les investisseurs marocains. Plus de détails sur ce partenariat dans ce reportage de Max Souibu depuis Abidjan.
La Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire, la CCIMC, a été créée en 2013 par un groupe d'entrepreneurs marocains installés en Côte d'Ivoire. Son but est de servir de relais entre les investisseurs et les pouvoirs publics ivoiriens et marocains et développer les relations commerciales, industrielles, financières entre les deux pays. Parmi les partenaires de la CCIMC, on peut désormais compter la Compagnie Royal Air Maroc. À Abidjan, une convention entre les deux parties vient couronner des années de collaboration et fluidifier encore les déplacements entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc.
Les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ils sont très élevés et aujourd'hui avec ce partenariat, ça va permettre aux différents chefs d'entreprise de bénéficier des tarifs préférentiels au niveau de leurs déplacements sur le Maroc comme la France. Donc aujourd'hui, ces chefs d'entreprise pourront bénéficier de ces avantages, aussi peut-être aussi de leurs différents personnels et les membres d'honneur de cette chambre.
Cet accord de partenariat est dans la continuité de notre politique commerciale de proximité par rapport à nos marchés stratégiques. Donc l'Afrique aujourd'hui est au cœur de nos priorités stratégiques. Nous sommes une compagnie africaine, membre de l'Alliance One World, et nous sommes avant tout là pour servir nos frères dans tous les pays que nous desservons.
La Royal Air Maroc a une présence de près de 48 ans en Côte d'Ivoire. La compagnie a atteint le double quotidien en pointe et 10 fréquences hebdomadaires. Une fréquence de vol soutenue par les relations bilatérales entre les deux pays qui ont connu un développement significatif à tous les niveaux sous l'impulsion du roi Mohamed VI et du président Alassane Ouattara.
Donc nous avons une dynamique très positive qui vient d'être renforcée par cet accord aujourd'hui et nous souhaitons beaucoup de succès aux différents investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire et nous réitérons notre disponibilité à les accompagner pour le succès de leurs objectifs.
Le Maroc figure depuis quelques années parmi le trio d'investisseurs en Côte d'Ivoire.
Zoom Express.
Je vous le disais en titre, l'avancée du désert est une réalité dans certains pays du continent. Pour y faire face, des solutions innovantes commencent à émerger. Dans cette émission, nous donnons la parole à une start-up active dans ce domaine. Il s'agit de la start-up Sand to Green. dont nous avons le plaisir de recevoir le cofondateur et CEO Benjamin Rombo. Bonjour à vous, Benjamin Rombo.
Bonjour Omar, bonjour également à tous vos auditeurs.
Alors Benjamin, on sait qu'il y a pas mal de projets, notamment celui de la Grande Muraille Verte, qui vise donc à arrêter l'avancée du désert. Vous êtes une start-up qui essaie de faire bouger les choses de votre côté. Alors, comment est née l'idée de reverdir le désert?
Alors, l'idée initiale, si vous voulez, n'est pas tant de reverdir les déserts, mais plutôt d'arrêter la désertification. Et effectivement, chaque année, et ça peu de gens le savent malheureusement, on perd 13 millions d'hectares de terres arables à cause de la désertification. 13 millions d'hectares de terres arables, ça représente environ un terrain de football toutes les 2 à 3 secondes, ce qui est énorme. Et par exemple, dans la région dans laquelle on se développe aujourd'hui, la région de Gulmin-Wadnoun, c'est une région qui était très agricole. Il y a de ça 30 ans, on pratiquait beaucoup d'agriculture en bourg et de l'agriculture oisienne. Malheureusement, à cause de la baisse des précipitations, les agriculteurs se sont mis à aller chercher dans le sous-sol l'eau dont ils avaient besoin, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau disponible. Et donc, c'est vraiment toute un processus de désertification qui s'est mis en place dans cette région-là et qui se passe dans beaucoup de régions du monde, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Europe, notamment en Espagne ou en Italie. Et c'est là, contre ça, contre cette désertification, qu'on essaye de lutter. Et pour lutter contre ce fléau, il y a pas d'autre solution que les solutions basées sur la nature. Donc, c'est-à-dire faire de la végétation, planter des arbres, planter des plantes. Et c'est notamment aussi un des axes de développement de la Grande Muraille Verte. Et donc, nous, on s'inscrit dans ce type de projet avec une dimension également rentabilité des plantations derrière, qui est pour nous très importante afin de multiplier la réplication de ce type de projet.
En tout cas, c'est une idée très intéressante. Cela dit, en quoi consistent les différentes solutions proposées par votre start-up?
Afin de cultiver les déserts et ainsi de transformer des terres arides en terres arables, Saint-Sulbin propose une solution qui se décompose en trois briques. Une première brique qui est notre logiciel d'agroforesterie, qui est issu de 3 années de recherche et développement avec des scientifiques d'un peu partout à travers le monde, spécialisé donc dans ces écosystèmes arides, et qui nous permet de savoir exactement quelles plantes et quelles arbres combiner intelligemment pour régénérer nos sols. Ce logiciel nous permet également de non seulement connaître les besoins en eau, la captation carbone, mais aussi de connaître la rentabilité future de ces plantations. Donc c'est vraiment notre core business à nous, c'est notre première brique. Ensuite, on utilise en seconde brique des unités de dessalement qui sont modulaires et qui fonctionnent à énergie solaire, auxquelles on vient ajouter une gestion de la saumure, donc qui est le déchet du dessalement. Et ces deux briques nous permettent de constituer notre troisième brique, qui sont nos plantations d'agroforesterie en milieu aride, qui vont générer 3 types de revenus. Un revenu lié à la production des arbres, un revenu lié à tout ce qui est intercropping, donc culture intercalaire entre ces allées d'arbres, et un dernier revenu qui est lié au crédit carbone. Et donc on propose ces plantations d'agroforesterie en milieu aride comme investissement vert à des gestionnaires d'actifs, à des investisseurs qui cherchent non seulement à avoir un retour sur un investissement qui soit non négligeable, mais aussi à faire de l'impact au niveau de la restauration de la biodiversité, au niveau de la captation carbone, de la régénération des sols, mais aussi au niveau de l'impact social en favorisant la création d'emplois et la sécurité alimentaire.
Merci à vous, Benjamin Rombo. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de la startup Sand2Green.
Merci à vous pour votre invitation, Omar. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, au plaisir de faire en sorte que le Maroc soit le pays montré en exemple dans l'agriculture régénératrice. À bientôt, au revoir.
L'invité.
Il s'agit de Ndey Aïda Diouf, directeur général des sociétés Dalla Machine et comptoir africain de la machine. Elle est donc notre invitée. Avec elle, nous allons revenir sur la Journée mondiale de l'Afrique qui a été célébrée en grande pompe ce 25 mai au Maroc. Cette année, il était question de concrétiser la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF, justement. Avec notre invité, nous allons mettre le focus sur le rôle des entrepreneurs subsahariens installés au Maroc dans le renforcement des échanges entre les pays du continent. Bonjour à vous, Ndeye Aïda Diouf, et bienvenue dans Coémergence.
Merci, Monsieur Omar Baldé.
Alors, tout d'abord, je rappelle que vous êtes donc la directrice générale de la société, des sociétés Dalla Machine et Comptoir Africain de la Machine. Alors, en tant que entrepreneur subsaharienne installé au Maroc, comment contribuez-vous au renforcement des échanges intra-africains?
Tout d'abord, je vous remercie pour cette tribune que vous m'accordez. Je suis dans le secteur de l'industrie. C'est un secteur où évolue très peu de subsahariens. J'ai la chance de pouvoir servir l'industrie du cuir, l'industrie du textile, du matelas. Et je vois que ces sociétés-là, des grands noms, c'est-à-dire Richebond, Dolidol et autres, sont en train de s'implanter dans les pays de la sous-région et même créer des structures là-bas.
Dans la sous-région ouest-africaine notamment.
Ouest-africaine notamment. Et je trouve que c'est un bon début pour la coopération sud-sud, en fait, et les relations inter-africaines.
En tout cas, l'implantation des sociétés multinationales africaines contribue au renforcement de ces relations. Alors, vous le disiez, vous êtes dans le domaine de l'industrie du cuir. Parlez-nous justement de votre expérience.
Mon expérience au Maroc, elle est enrichissante. Je suis un produit de l'éducation nationale marocaine, première sénégalaise à être à l'ENCG d'Agadir. Donc, ma formation m'a permis d'intégrer le tissu économique marocain et de le servir au mieux. Donc, je pense que le Maroc est un exemple. C'est un exemple dans tout ce qui est commerce international, dans l'industrialisation et que tous les pays d'Afrique gagneraient à copier.
Justement, vous parlez de ce modèle marocain. Selon vous, en quoi il peut être exporté dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple?
Pour avoir eu la chance d'avoir servi les centres de formation professionnelle au Maroc, l'OSPT, vraiment une institution que je respecte pour ce qu'elle donne à la jeunesse marocaine, je rêverais que nos pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, s'imprègne de ce modèle et du fait de notre richesse, de la jeunesse de notre population et qu'on puisse mettre un focus sur la formation professionnelle des jeunes parce que je pense que c'est par cela que le développement peut commencer.
Alors, on sait que les pays africains, chaque pays a ses ressources. Vous êtes dans le domaine du cuir. Pensez-vous qu'il y a une opportunité là de renforcer les échanges entre les pays? Par exemple, vous êtes sénégalaise, quand on prend le cas, l'exemple du Sénégal et du Maroc, s'il y a à développer les relations dans votre domaine, selon vous, comment le faire? Comment le réussir?
Je pense fortement que pour réussir dans notre domaine, c'est d'utiliser au fait les expériences qui ont réussi pour pouvoir développer nos compétences. Nous sommes riches, de nos hommes, de nos valeurs, de nos compétences. Nous avons des richesses naturelles, c'est-à-dire que le cuir est disponible. Il nous manque que l'union et la volonté d'avancer ensemble et de partager ces connaissances que nous avons pour renforcer nos relations économiques.
Il y a la,
culturellement, voilà, oui, voilà, culturellement on est lié, il y a la proximité. Je pense qu'il y a beaucoup à faire.
Alors, en termes d'expérience gagnant-gagnant, parce que c'est ça aussi le slogan de la coopération Sud-Sud, comment selon vous parvenir à des échanges gagnant-gagnant, à ce partage d'expériences dont on parlait, mais en tant que businessman tout court ou businesswoman, hein, excusez-moi, comment accélérer ce concept et cette réalité du gagnant-gagnant?
Il faut qu'on se respecte entre nous. Ça, c'est une base, c'est un préalable. C'est-à-dire que quand un industriel marocain ou rencontre des compétences subsahariennes, comme on dit, il faut qu'on aille ensemble, en fait. On a intérêt à utiliser les compétences qui se trouvent localement. Nous avons la connaissance du marché marocain, nous avons la connaissance du marché sénégalais ou ivoirien ou burkinabé. Je pense qu'on a à gagner à avancer ensemble. C'est ce que je disais au préalable. C'est-à-dire que mettre une synergie des connaissances, ne pas prendre cette figure paternaliste qui ne marche pas comme du temps des années 60 ou...
Effectivement. Voilà, il faut des relations d'égal à égal, une confiance réciproque. Et puis, la confiance aussi réciproque, parce que cela nous rappelle ce que disait d'ailleurs dans le discours d'Abidjan du roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, et qui est d'ailleurs le slogan de cette émission co-émergence. Alors, Ndey Aïda, je rappelle que vous êtes la directrice générale des sociétés Dala Machine et comptoir africain de la machine. Comment voyez-vous l'avenir des échanges économiques et des relations, ne prenant que l'exemple de votre domaine, comment voyez-vous l'avenir des échanges entre pays africains? Je prends le cas du Sénégal et du Maroc, par exemple.
Pour reprendre, nous, Africains, nous devons être acteurs de notre développement. Donc, nous devons pouvoir créer toutes ces entités présentes dans tous les pays, les développer chez nous, en fait. Dans le secteur textile, tout est à faire. Nous avons la possibilité d'importer des machines de qualité, nous avons la possibilité d'ouvrir de grandes zones industrielles parce que nous avons les terres pour ça, nous avons la population pour ça. Il faut juste pouvoir encadrer toutes ces personnes-là, former la jeunesse et je pense que les meilleurs jours sont devant nous.
Les meilleurs jours sont devant nous, c'est sûr. Cette note d'optimisme qu'on va vous dire. Un grand merci, Ndey Aïda Diouf. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des sociétés Dala Machine et comptoir africain de la machine. Donc, vous êtes spécialisée dans le domaine du cuir notamment. Et vous nous parliez à l'occasion donc de la célébration du soixantenaire, des célébrations du soixantenaire de la Journée mondiale de l'Afrique qui a donc été célébrée cette semaine au Maroc et partout ailleurs à travers le continent et le monde. Ndey Aïda Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Destination Éco.
Notre destination éco nous mène au Nigeria. Ce géant démographique et économique est également l'un des premiers exportateurs africains de pétrole. Le Nigeria, un exportateur de pétrole qui ne disposait pas de raffinerie, l'obligeant à importer le produit fini de son pétrole. Tout cela va bientôt être du passé puisque le Nigeria s'est enfin doté d'une raffinerie. Une raffinerie qui va contribuer à assurer une autonomie totale dans le domaine des hydrocarbures. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, nous parle de cette raffinerie qui porte la signature de l'homme d'affaires Aliko Dangote. Dans ce reportage, vous entendrez d'abord le président nigérian Muhammadu Buhari, puis la réaction de citoyens nigérien, direction Lagos où cette raffinerie est implantée.
La raffinerie est située dans la vaste zone industrielle de Lekki à Lagos, la capitale économique du Nigeria, couvrant une superficie de plus de 2000 hectares. Elle est considérée comme la plus grande raffinerie à train unique au monde avec une capacité de production de 650 000 barils par jour. La raffinerie est alimentée par une centrale électrique de 435 MW et pourra, selon les experts, répondre à 100% aux besoins nigériens en produits raffinés et même produire un excédent pour les exportations.
We must create necessary conditions for our private sector.
Nous devons créer des conditions acceptables pour notre secteur privé, pour son développement et pour accélérer la croissance économique à travers le continent africain. L'influence du groupe Dangote et les autres entreprises nigérianes ont augmenté dans les pays voisins. La présence à cette cérémonie de mes homologues du Ghana, du Togo, du Niger et du Sénégal témoigne du progrès accompli dans ce cadre.
For my brothers from Ghana, Togo and Niger and Senegal. It's evidence of the progress in this regard.
grand producteur de brut, le Nigeria est dépendant des produits pétroliers raffinés importés en raison du manque de capacité de raffinage au niveau national. La raffinerie de Dangote doublera la capacité de raffinage du Nigeria et contribuera à répondre à la demande intérieure croissante de carburant.
Si différentes personnes comme Dangote acceptent l'idée d'investir dans un secteur vital de l'économie pour améliorer la vie des gens, alors je pense que cela est hautement louable. Après tout, le gouvernement a été incapable de faire ce qu'il devait faire et il y a longtemps que ça perdure. Donc si les Nigériens en profitent, je ne pense pas que cela soit une mauvaise idée.
Des milliers d'emplois directs seront créés. La raffinerie de Dangote et le complexe pétrochimique devraient également générer environ 100 000 opportunités d'emplois indirects, contribuant ainsi à la croissance économique et au marché du travail du Nigeria.
Le premier impact sur les Nigérians est que les prix du carburant ou les prix du gaz vont baisser. Et cela incitera même le gouvernement à supprimer les subventions. Car depuis plus d'une décennie, le Nigeria importe du carburant raffiné. Cela va aussi aider à générer des revenus supplémentaires pour le gouvernement.
Actuellement, le Nigeria importe plus de 70% de ses produits pétroliers raffinés, ce qui en fait l'un des plus grands importateurs de produits raffinés en Afrique. Cette nouvelle raffinerie devrait changer la donne.
Merci à vous, Gilbert Tamba, correspondant de Midi 1 au Nigeria. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Midi 1 Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituel. Bonne suite de programme sur Medium.